بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le 2 du mois ذو القعدة de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 19 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de ce livre très bénéfique et très profitable dans l'Aqida de Cheikh Al-Allama Hafid Al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde. On s'est rendu à la 123e question dans laquelle l'auteur, rahimahullah, après avoir parlé de la balance et du jugement, il a parlé d'un autre point parmi les points de la croyance, parmi les fondements de la foi au jour dernier. Et comme vous savez, le jour dernier, c'est tout ce qui suit la mort. L'yawm al-akhir, c'est tout ce qui suit la mort de l'individu. Et donc, il a parlé ici de As-Sirat. Il a dit « Ma dalil as-Sirat min al-Kitab ». Et comme d'habitude, il demande les preuves tirées du livre d'Allah et ensuite les preuves tirées de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Car dans tout point de la religion, il est nécessaire qu'il soit basé sur des preuves. Et ces preuves, c'est ou bien des versets du Coran ou des hadiths authentiques de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres arguments, bien évidemment, mais ça c'est la base dans les arguments. Les arguments arrivent au nombre de 10 dans la religion, mais la base des arguments, c'est le Coran et la sunna. Après, nous avons comme argument le consensus, l'unanimité des savants. Nous avons comme autre argument al-qiyas, l'analogie, et d'autres arguments qui sont détaillés dans la science des fondements de la jurisprudence. Lakin, dans les points de l'aqida, théoriquement, Al-Qur'an et la Sunna, on trouve toujours des preuves de l'Qur'an et de la Sunna, et même plusieurs preuves de l'Qur'an et de la Sunna les concernant, car c'est des points fondamentaux de la croyance, dans lesquels il n'y a pas de divergence entre les musulmans, les suiveurs de la Sunna. La seule divergence qu'on puisse trouver dans ces points, c'est une divergence avec les innovateurs et les égarés. Mais il n'y a pas de divergence entre l'imam Malik, ni l'imam Ahmed, ni l'imam Shafi'i, ni l'imam Abu Hanifa, ni les autres grands imams. Mais ceux-là, c'est les plus connus, les quatre écoles de jurisprudence. Il n'y a pas de divergence dans ces points-là, dans tous ces points de la croyance. Et avant eux, il n'y a jamais eu de divergence entre les compagnons dans tous ces points fondamentaux de la croyance. La divergence qui puisse exister entre les compagnons, c'est une divergence dans les questions de la jurisprudence. Ou dans des points liés à ces fondements de la croyance. Et non pas dans les fondements eux-mêmes. Il y a unanimité des compagnons là-dessus. Et de tous les savants qui les en suivent. Sauf les innovateurs. Comme le Mu'tazila, le Jahmiya, l'Asha'ira, l'Murji'a, l'Khawarij, et ainsi de suite parmi les sectes égarées. Taïb. Là, il a dit « Ma dalil al-sirat ». Al-sirat, bien évidemment, c'est le pont qui sera dressé sur le feu de l'enfer. Que toute personne doit traverser avant d'arriver au paradis. C'est ce pont qui est dressé sur le fossé de l'enfer. Comme on a vu, L'enfer, c'est un fossé extrêmement profond. Si on jette une pierre du haut de ce fossé, elle mettra 70 ans avant d'arriver au fond. Et ceux qui seront dans le degré le plus bas de l'enfer, ce sont les hypocrites. La grande hypocrisie, pour la distinguer de la petite hypocrisie, et non pas pour minimiser sa gravité à la petite hypocrisie, comme le mensonge et le non-respect de nos engagements, et de ne pas respecter ses promesses, tenir sa parole, trahir. Tout ça fait partie de la petite hypocrisie qui peut mener vers la grande hypocrisie. Et la grande hypocrisie, en réalité, c'est quoi? C'est ceux qui montrent la foi et qui cachent la mécréance. C'est des gens qui vont montrer l'islam juste par intérêt ou par peur des musulmans ou par intérêt. Quelqu'un qui souhaite se marier ou là qui souhaite avoir certains intérêts dans les pays de l'islam. Ou il y a un espion, par exemple. Ça, c'est des exemples des grands hypocrites qui se rendent dans le degré le plus bas de l'enfer. Et l'hypocrisie n'apparaît dans la communauté que dans les périodes où les musulmans sont forts. Quand les musulmans deviennent faibles. Et qu'est-ce qui fait que les musulmans deviennent faibles? Qui peut répondre? Tadarak, musulman.
Le fait qu'il s'éloigne de la foi.
Le fait qu'il s'éloigne de la religion. Et pas de n'importe quelle religion. Bonne réponse, mashallah. Jazakallah. Le fait qu'il s'éloigne de la religion et pas n'importe quelle religion. Il faut savoir de quelle religion on parle, car il n'y a qu'un seul islam qu'Allah aime et agrée. C'est l'islam sur lequel était le prophète Isa al-Salam, ainsi que ses nobles compagnons. C'est la voie sur laquelle le prophète Al-Islam a laissé ses compagnons quand il a dit « Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. » Le Nabi Al-Islam a dit « Je vous ai laissé sur la voie claire, de jour comme de nuit, dans laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. De jour comme de nuit. Et il ne dévie de cette voie que quelqu'un qui est voué à la perdition. Hadith authentique. Donc l'islam, c'est l'islam sur lequel était le prophète Aïssa sallam. L'islam tel qu'il a été révélé. Et Allah nous a permis dans cette communauté des sciences que aucune communauté n'a jamais connu avant nous, qui permettent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à un peu avant la fin des temps, à toute personne sincère qui veut suivre l'islam tel qu'il a été révélé, d'y arriver. Donc il faut faire des efforts. Et surtout à cette époque où l'égarement est devenu répandu, les ambiguïtés sont propagées partout. Donc il faut faire l'effort pour connaître l'islam, le vrai, qu'Allah aime et agrée. Et de le suivre, chacun selon sa capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette religion de la miséricorde, cette religion de la clémence, il ne charge jamais une âme au-dessus de sa capacité. Tout ce que tu ne peux pas faire réellement, c'est plus une obligation, même si c'est une obligation à la base. Lakin, ce que tu ne peux pas faire réellement, à cause d'un vrai empêchement. Donc, had l'islam, le vrai islam, on peut le résumer en trois mots. C'est de suivre Al-Qur'an et la Sunna authentique. Remarquez qu'on ne dit pas Al-Qur'an authentique, car Al-Qur'an est préservé de toute falsification. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Allah a fait descendre Al-Qur'an, il a garanti le fait de le préserver, chose qui n'a pas été assurée dans les autres communautés. Allah a confié la préservation de leurs écritures à leurs hommes de science, mais pas dans notre communauté. Préserver le Coran, c'est Allah qui s'en est chargé lui-même. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui le grand nombre de personnes partout sur Terre qui mémorisent le Coran dans son intégralité. Le Coran, il est préservé. C'est le seul livre qui est préservé parmi les livres révélés. Tous les autres ont été falsifiés. Donc, c'est quoi cet islam? C'est de suivre le Coran et la sunna authentique. Et dans l'étude de la sunna, la tradition prophétique, c'est là où il y a des sciences qui n'ont jamais existé dans les communautés avant, comme la science de l'jarh ut-ta'dil, de la critique et de l'éloge. Nous connaissons chaque rapporteur, sa biographie, son degré de maîtrise, son degré de mémorisation, son degré d'intégrité. Il y a ni tous les détails. Et si on ignore ces choses-là de lui, nous n'acceptons pas le hadith. Nous l'acceptons seulement quand nous avons tous ces éléments pour chaque rapporteur à toute génération de la chaîne de transmission jusqu'à arriver au prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, il n'est pas accepté. C'est pour ça, pas tout hadith qui est jugé par les hommes de science comme faible est forcément un hadith qui n'a pas été dit par le prophète alayhi salatu wassalam. Lakin, il ne vérifie pas les critères de l'acceptation. Donc, suivre le Coran et la Sunna, est-ce que c'est suffisant? Tfadl akhi Abdullah. Il y a deux Abdullah, je pense. Al-Qamari.
Suivre le Coran et la Sunna selon son des pieux prédécesseurs.
Aïwa, na'am. Masha'Allah, Allahumma barik. Yani, c'est pas suffisant. Lana, si tu dis ça un musulman qui apprend ça pour la première fois, ça peut le choquer. Tu lui dis, le Coran et la Sunna, ce n'est pas suffisant. Il faut suivre quoi d'autre? Le Coran et la Sunna, et les comprendre comme le prophète nous a enseigné et comme ils étaient compris par les compagnons. La compréhension est primordiale, car ça sert à quoi? D'avoir un livre, une révélation, et de l'interpréter chacun comme bon lui semble. Et si vous regardez ce que les frères musulmans disent à notre époque, yani ceux qui s'expriment en français, vous allez voir qu'ils disent, nous avons besoin d'une nouvelle lecture des textes, nous avons besoin d'une adaptation, nous avons et ainsi de suite. Al-Qur'an et la Sunna, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui qui a créé ce monde. Et il sait comment il va être jusqu'à la fin des temps. Et il a révélé des lois valables jusqu'à la fin des temps. Toute époque confondue, tout endroit confondu. Et ça, c'est parmi les points très importants qu'aucun musulman n'est censé ignorer. Car c'est un point qui peut faire sortir de l'islam. De penser que le Coran n'est plus valable. Ou que la tradition du prophète sallam n'est plus valable. C'est pour ça qu'il y a une différence entre deux personnes qui ont un point commun. Tous les deux, ils ne vont pas appliquer un texte. Lakin, il y a une grande différence entre les deux. Le premier, il ne met pas en pratique le texte en reconnaissant sa faiblesse. Il dit, je peux pas, j'arrive pas, je suis faible. Et Ada, c'est un musulman, alhamdoulillah, et on a tous nos faiblesses et nos défauts. Le deuxième, Shaitan, il le fait rentrer dans un domaine très dangereux, qui peut le faire sortir de l'islam. Il commence à s'opposer à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et critiquer et juger ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Le rôle de la raison, sans laquelle d'ailleurs tu n'es pas responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taklif, min shart al-taklif, al-aql. Al-mukallaf huwa al-aql al-baligh. Celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ou qui n'a pas sa raison, il n'est pas responsable de ses actes. Mais son tuteur est responsable de lui, afin de l'empêcher de faire du mal aux autres. Là qu'il lui, en lui-même, il n'est pas responsable. Sans la raison, tu n'es pas responsable. Regardez l'importance de la raison dans la religion de l'islam. Là qu'il la raison, ça reste une créature d'Allah, et non pas un juge qui va juger les textes et la révélation. Et ça, c'est quand on parle d'une raison saine. Alors que dire d'une raison qui a été corrompue par l'éducation et l'enseignement qu'elle a reçu ou la société dans laquelle la personne a grandi. Ou elle peut voir les mesures et les balances peuvent s'inverser pour elle et voir le mal comme un bien et le bien comme un mal. C'est pour ça le bien, c'est le bien absolu, le bien universel dans l'islam. C'est le bien qu'Allah a jugé comme un bien. Alors vous constatez que le bien pour un Chinois, ce n'est pas le bien pour un Américain. Donc quelle référence dans le bien? Le bien, c'est le bien qu'Allah a décrété. C'est pour ça que nous devons tous suivre le Coran et la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, et les comprendre comme ils étaient compris par Abu Bakr al-Siddiq, et Omar, et Uthman, et Ali, et les autres compagnons qu'Allah les agrée tous. Et tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, parmi les grands imams, jusqu'aux imams de notre époque, qui sont tous sur la même voie. C'est pour ça, parmi les plus grandes preuves que cette voie, la voie salafie, est la voie de la vérité, parmi les plus grandes preuves rationnelles, c'est que les gens, les suiveurs de la sunna et les adeptes de la sunna, ils sont sur les mêmes croyances, yani, quelle que soit leur époque, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur pays d'origine, ils sont sur les mêmes croyances dans tous ces domaines que nous citons. Et il n'y a pas de divergence entre eux. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez trouver que chez eux. Si tu prends un frère musulman d'Égypte, c'est pas le même qu'un frère musulman de Syrie. C'est pas comme un frère musulman du Maroc. C'est pas comme un frère musulman d'Arabie Saoudite. C'est encore autre chose. Tu vas trouver qu'il a du tawhid, qu'il donne de l'importance au tawhid, étant donné la société dans laquelle il vit. Lakin, ahl sunna, c'est les mêmes partout où vous les trouvez. Pourquoi? Parce que la source chez eux est la même. Regardez, on a dit les mêmes sources avec la même compréhension. Yani, la façon de comprendre de l'imam Malik, c'est la même manière de comprendre de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad et de l'imam Abu Hanifa et de tous les compagnons. Et c'est pour ça qu'ils n'ont divergé dans aucun fondement de la croyance. Là, la divergence et leur divergence dans les questions de la jurisprudence est liée à la nature humaine et au bagage scientifique et à beaucoup de paramètres qui font que l'imam Malik puisse avoir un avis par rapport à une question de l'fiqh différent de celui de l'imam Ahmad. Et le devoir du musulman, car la vérité elle est unique, même dans ses divergences, comme a dit l'imam Malik lui-même. Le devoir du musulman, s'il a les outils, c'est d'étudier les divergences et de suivre la vérité dans les questions de la jurisprudence. Et celui qui n'a pas les outils, Allah lui a dit dans le Coran, « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun ». Il demande à un savant de confiance, un savant de la sunna, et il suit ce qu'il lui dit. Il n'y a pas tous les muslimines, ils ont les outils d'arriver à la vérité avec les preuves et les sciences. Lakin, chaque musulman a un degré d'effort qu'il doit fournir dans sa religion. Et le degré le plus bas, c'est l'effort de trouver l'homme de science de confiance, comme il fait pour trouver l'architecte pour la construction de sa maison, ou là la gestion de sa fortune. Il ne va pas confier sa fortune au premier qu'il croise sous prétexte qu'il a une barbe ou là qu'il porte un qamis. Non, il va demander... Il va s'assurer que c'est quelqu'un qui est compétent et qui est digne de confiance. Et il va mettre toutes les précautions et avoir toutes les garanties avant de lui confier cette chose qui est chère pour lui. Alors que dire de ta religion, Yahri? Ta religion, c'est la clé de ta sauvegarde auprès d'Allah. C'est le paradis ou l'enfer. Et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est pour ça, l'affaire est très importante. Et la religion doit être prise très, très au sérieux. Amma f'dunia, c'est pas grave. Même si tu rates ou t'échoues dans une expérience, même ils disent que l'échec, c'est la première étape vers la réussite et vers le succès. Lakin, ça reste, c'est pas grave. Ça peut se rattraper. Amma, dans la religion, si jamais la personne elle perd sa religion, peut-être qu'elle ne l'aura plus jamais. Nasalullah, salam al afir. Donc, par rapport à Sirat et les arguments de le Coran, Allah Azza wa Jal dit « وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ce verset, il dit wa in minkum illa wariduha, yani chaque individu, chaque être humain et également chaque djinn, tous ils vont passer sur le pont. Wa in minkum illa wariduha, il n'est aucun d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. Hada wa le sens apparent, c'est que il va y avoir un passage obligé par l'enfer. Lakin, le sens en réalité, c'est ce passage, comme on a vu, c'est sur le pont qui passe au-dessus de l'enfer. Donc c'est comme s'il a traversé l'enfer. Et ça, c'est un passage obligé pour arriver au paradis qui se trouve à l'autre bout du pont. Et avant l'entrée au paradis, il y a yani, un jugement qui sera fait entre les croyants. Et les droits seront rendus entre les croyants. Les injustices qui ont été commises entre les croyants. Avant d'aller au paradis. Car le paradis, c'est la bonne demeure dans laquelle n'entrent que les bonnes personnes qui n'ont aucun péché. Donc ou bien les péchés sont effacés avec le pardon d'Allah ou avec les épreuves que la personne a subi dans Dunia ou avec un châtiment dans la tombe. Sinon, si tout ça ne suffit pas pour purifier le muwahhid, et là on parle que de le muwahhid, celui qui a la ilaha illallah dans le cœur et sur la langue et les membres également. Le vrai muwahhid. Celui qui a tawhid, qui a l'unicité d'Allah, qui a adoré Allah seul sans rien lui associer et qui a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Elle est composée de deux parties. La ilaha illallah. Il n'y a pas de vraie divinité. Ça, c'est la négation. La première partie. C'est-à-dire, tu vas mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la deuxième partie, c'est l'affirmation. Illallah. Et tu vas adorer exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le muwahhid, c'est pas celui qui adore Allah seul, seulement. Le muwahhid, c'est celui qui adore Allah seul et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça celui qui a la ilaha illallah. Cet homme ira forcément au paradis. Directement, si Allah lui pardonne si jamais il a des péchés. Sinon, il ira après un passage de purification en enfer. Si Allah ne lui pardonne pas. C'est pour ça, comme vous savez la croyance de Al-Sunnah Al-Jama'a, Allah il peut pardonner tous les péchés à qui il veut. Et celui à qui il ne pardonne pas, il le châtiera proportionnellement à ses péchés. Lakin, le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort, c'est Ash-Shirk. Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne un associé. Lakin pendant, ça c'est après la mort. Amma pendant le vivant de la personne, même celui qui insulte Allah, même celui qui lui donne des associés, même celui qui est athée, allez, quelle que soit sa catégorie de mécréance, s'il revient vers Allah, Allah lui pardonne tout. Et même il transforme tous ses péchés en des bonnes actions. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Allah aime ceux qui se repentent. Et Allah sait qu'on est faible et qu'on est pécheur. Lakin, il nous a imposé le repentir. Et le repentir sincère, qui regroupe les cinq conditions du repentir sincère. C'est-à-dire, il le fait pour Allah sincèrement, il délaisse le péché immédiatement, il le regrette, et il a la ferme intention de ne plus jamais le commettre. Et si c'est vis-à-vis des créatures, il faut qu'il rend les droits aux ayants droit. Car Allah n'intervient jamais entre les créatures. Sauf un homme sincère, extrêmement sincère, qui n'a pas pu réparer le mal qu'il a commis aux créatures. Pour une raison ou pour une autre. Cet homme-là, Allah, il peut les empêcher de prendre de ses hasanats ou de lui donner de leurs sayyi'at. Il leur donne lui-même al-hasanat. Il ne les laisse pas toucher ses hasanat. Celui qui n'a pas pu réparer le mal qu'il a fait aux gens. C'est pour ça qu'il y a un péché qu'Allah ne pardonne jamais, c'est shirk. Al-shirk, wa ma adraka al-shirk. Et shirk, c'est pas qu'une seule catégorie. C'est énormément de catégories. C'est le crime le plus abominable. Et le péché le plus grave qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Tout ce qui est en dehors de shirk, Allah il pardonne à qui il veut et il punit qui il veut proportionnellement à son péché et ensuite il le fait rentrer au paradis. C'est pour ça le mouahid, forcément, il finira au paradis. Lakin, il faut savoir qu'il y a des mouahidines qui vont rester en enfer le temps de dunya en entier. Deux fois de dunya, trois fois de dunya. À cause de leurs graves péchés qu'ils auront faits. Lakin, c'est resté des gens qui ont tawhid et qui n'ont pas fait à shirk. Shirk comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Égorger pour Sidi Antel ou la Sidi Antel. Ça, c'est un péché qui fait sortir de l'islam. C'est de la grande mécréance. Car le sacrifice et l'égorgement est une adoration. Et shirk, c'est une adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Car le mushrik, il est l'homme le plus injuste. Il a mis au même pied d'égalité une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah. C'est ce que tu dis quand tu dis la ilaha illallah. La ilaha, ça veut dire la ma'louha. Abu Jahl, il comprenait ça. Et aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de musulmans qui font salat depuis 60 ans qui ne comprennent pas la ilaha illallah. La preuve, ils répètent la ilaha illallah 1000 fois par jour et le soir, il égorge pour Sidi Antel. Ou là, il invoque un mort. Ou là, il invoque même le prophète. Vous entendez madad madad ya Rasulallah. Vous entendez dans le. Il y en a qu'il ne faut pas entendre dans les chansons d'Al-Hadou qui disent Abdel Qadir ya Abu Alam Dawi Hali. Hadara, il invoque une personne enterrée dans sa tombe. Il lui dit, guéris-moi. Ouah, s'il pouvait se guérir lui-même, qu'est-ce qu'il va te guérir hier? Regardez la bassesse de shirk. La bassesse de shirk. Tu reviens vers une créature faible comme toi qui a besoin d'Allah, comme toi tu as besoin de lui. Et regardez l'élévation de tawhid. Al-Muwahid. Il ne s'incline devant personne, devant Allah seul. C'est pour ça que vous trouvez le musulman, le muwahhid, il vient et met son front par terre pour Allah. Et tu lui demandes de faire ça contre 1 million d'euros, wallah, il ne le fera pas. C'est pour ça que ces deux hommes qui ont traversé une tribu, qui vénéraient une idole, qui vénéraient une statue, ça, c'est un hadith authentique que vous trouvez dans le livre de l'unicité Kitab Tawhid. Donc, ils ont traversé une tribu qui avait une idole qu'ils vénéraient, au point qu'ils ne laissaient personne passer par leur village jusqu'à présenter une offrande pour leur idole. Sinon, ils ne le laissent pas passer, ils le tuent. Et c'était autour de deux hommes. Tous les deux étaient des mouahidines. Ils ont dit au premier, sacrifie quelque chose pour notre idole. Il a dit, je n'ai rien à sacrifier. Ils lui ont dit, sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Et allez, ce que tu trouves, c'est pas grave. Ce qui compte pour les associateurs et pour les païens, c'est l'adoration du cœur. C'est pas allez, ce que t'offres. Ce que t'offres, ça profite avec celui qui veille sur le darih ou le mausolée. Ada quoi qui profite de la viande. Amma, ce que Shaitan il veut, c'est juste que ton cœur il penche vers autre qu'Allah. C'est ça le plus important. Amma, ada quoi les radis dire barbecue mbad ou adakshi. L'ham haram, bien évidemment. Lakin, huma qui profite de la viande. Et c'est pour ça qu'ils défendent ces choses-là. Ils disent, mais non, mais on ne fait pas de shirk. On égorge au nom d'Allah. Oui, c'est ça. Celui qui est proche de ces gens-là, il sait qu'ils sont à fond dans l'adoration de Shaitan. En personne. Et ça, vous le trouvez même chez les Occidentaux. Ne pensez pas que ça, c'est réservé aux musulmans. Shaitan, il est partout. Et c'est les mêmes rituels. Hatta huma, ils égorgent pour autre qu'Allah. Shaitan, il demande la même chose pour tout le monde. Et d'abord, avec ce qu'ils ont propagé, peut-être vous avez vu des choses. Lakin hachi, les ulama, ils le savent depuis longtemps. Ils savent comment c'est le stratagème de Shaitan, de Iblis. Taïb, ils lui ont dit sacrifier, il a dit j'ai rien à sacrifier. Ou à la base, il ne voulait pas. Lakin, ils lui ont embelli cet acte, il l'a accepté. Et il l'a fait. Et ils l'ont laissé passer. Nabi Asselam a dit, il est en enfer. Et le deuxième, ils lui ont dit, sacrifie quelque chose. Il a dit, jamais je n'aurai sacrifié quelque chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cette parole, quand vous la lisez en arabe, yani, elle est tellement forte. Ça montre l'importance de Tawhid dans le cœur de cet homme. Pour voir que Tawhid, il n'est pas au même degré chez tout le monde. Il a dit, « Ma kuntu li uqarriba shay'an li ghayrillah. » Yani, c'est inimaginable. N'y pensez même pas que je vais offrir quelque chose pour autre qu'Allah. Ils l'ont menacé par la mort, il leur a dit, « Faites ce que vous voulez. Jamais je n'offrirai quelque chose pour autre qu'Allah. » Car c'est un acte d'adoration. Et ils l'ont tué. Nabi Asselam a dit, « Il est au paradis. » Hada huwa shirk parmi ces catégories. Shirk yani comme croire au porte-malheur, porte-bonheur, accrocher des talismans pour repousser le mauvais œil, accrocher des versets pour embellir les murs. Si c'est uniquement pour embellir les murs, ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Le Coran n'a pas été révélé pour ça. Est-ce que vous imaginez que dans la maison du prophète Hassan, il y avait alors que c'était écrit sur des morceaux de cuir, des choses comme ça. Est-ce qu'ils accrochaient ça sur les murs? Ça, c'est quand les gens ils se sont éloignés du Coran, ils ont commencé à l'utiliser pour embellir leurs murs et leurs maisons, pour la décoration. Le Coran, il a été révélé pour être lu et compris et mis en pratique. Donc celui qui accroche ça, c'est une innovation. Et l'innovation, bien évidemment, elle est pire que les grands péchés. Elle est plus grave que les grands péchés. Lakin, celui qui accroche ses versets sur les murs en pensant que ça va protéger sa maison, ça c'est un acte d'associationnisme, de shirk. Car il a fait d'une chose une cause alors qu'elle ne l'est pas. Ni religieusement, ni par l'expérience. Les causes sont de deux catégories. Des causes qui sont démontrées par la religion, comme le miel, comme l'habba saouda, comme Ruqya, et des causes qui sont démontrées par l'expérience, comme les médicaments. Lakin, les médicaments, c'est l'exemple connu qu'on donne. Alors, à notre époque, c'est un autre discours. Les médicaments, c'est plus des médicaments. C'est que des calmants, desquels il faut strictement s'éloigner. Lakin, ce n'est pas shirk, ni rien du tout. Rehada, c'est rentré dans un domaine d'exploitation des gens, et de ne plus chercher à leur donner les remèdes, mais leur donner des choses tout simplement pour calmer leur douleur. Amma, les remèdes, en général, comme disait un pharmacien, qui avait une pharmacie, il me disait que je n'ai aucun médicament dans ma pharmacie. C'est que des choses qui apaisent la douleur, qui calment, qui diminue les symptômes. Ouais, il n'avait pas le choix, c'était son travail. Et ça, c'est connu, le problème. Les laboratoires, ils se font leur richesse comme ça. Taïb. On a parlé de tout sauf de Sirat. Allah al-Musta'an. Lakin, j'espère que ça sera bénéfique pour moi ainsi que pour mes frères pour comprendre des points fondamentaux dans la religion qui sont très importants. Car ce qui est important, mes frères, c'est d'avoir la bonne compréhension de la religion. Même si on a une faible pratique, lakin d'avoir la bonne compréhension de la religion et de savoir que le vrai islam, c'est un seul islam. Et parmi les moyens qui permettent d'arriver à la bonne compréhension de l'islam, parmi les outils les plus importants, la langue arabe. C'est pour ça les orientalistes, quand ils ont vu le danger de l'islam pour l'Europe, ils ont commencé à envoyer des gens pour étudier l'islam dans les pays de l'islam. C'est ce qu'on a appelé par la suite les orientalistes, des gens qui apprennent l'islam comme des hommes de science. Muslims, lakin c'est des kuffars. Et le but de leurs études, c'est pour mieux connaître l'islam afin de mieux le combattre. Et ces gens-là étaient unanimement d'accord que le meilleur moyen pour éloigner les musulmans de leur religion, c'est de les éloigner de la langue arabe. Ils ont mis en place énormément de stratagèmes pour combattre l'islam, notamment répandre des ambiguïtés au sujet de l'islam, certaines choses qui sont fausses et qui sont erronées, et d'autres choses qui sont vraies, mais auxquelles ils vont donner une mauvaise interprétation, et pas la bonne, afin de faire douter les musulmans de leur religion, et de les éloigner de leur religion. Lakin, ça touche celui qui n'est pas proche des hommes de science, celui qui n'apprend pas sa religion. Et en plus, il écoute ces gens-là. Donc, parmi les meilleurs moyens, et les moyens les plus importants, pour être dans la vraie religion, être dans la bonne compréhension de l'islam, c'est la langue arabe. C'est pour ça, son apprentissage est une obligation religieuse. Et ça, c'est pas seulement pour quelqu'un en France qui ne parle pas du tout l'arabe. C'est même pour quelqu'un qui est au Maroc, en Algérie. On ne parle plus la langue arabe. Et Hadou, c'est parmi leurs stratagèmes. Ils ont fait revivifier ce qu'ils appellent les dialectes. Et ça, c'est pour combattre la langue arabe littéraire. Moi, je parle de la langue arabe littéraire qui te permet de comprendre le Coran et de comprendre la parole du prophète. C'est pour ça, un Marocain ou un Algérien, tu lui dis que signifie As-Samad, il ne sait pas. Et ça, c'est dans une des sourates les plus courtes du Coran. Que signifie Al-Falaq, il ne sait pas. Que signifie Subhanallah, beaucoup ne vont pas savoir. Que signifie Alhamdulillah? Beaucoup ne vont pas savoir. Va te dire Alhamdulillah, c'est merci. C'est la meilleure réponse que j'ai entendue. Alors que Alhamd, ce n'est pas shukr. Ce n'est pas la même chose. Alhamd, c'est beaucoup plus large. En français, on comprend. Là, on traduit par les louanges. Alhamd. هو الثناء على الله عز وجل بكل أنواع الكمالات والجمالات الحمد c'est de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les attributs de la perfection. C'est pas merci. Et subhanallah التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص. C'est d'attester l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements. C'est pour ça que les deux se complètent. Subhanallah, alhamdulillah, souvent sont dites ensemble car ils se complètent. Et avec les deux, tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection absolue dans tous ses noms, dans tous ses attributs, dans tous ses actes, et dans toute sa législation, et dans tous ses jugements, et dans sa religion, et dans sa création, et dans toute chose, avec ces deux paroles. Hada wa ya ikhwa, si on a compris ce point et qu'on a compris l'importance de la science dans notre religion c'est une religion de science. C'est pas une religion de tradition ou de coutume. Malheureusement, yani c'est devenu ainsi malheureusement à notre époque. Yani on est sur une religion de tradition. On a vu nos parents faire et on fait comme ils ont fait. L'islam, ce n'est pas une religion de coutume ni de tradition. C'est pour ça que vous trouvez l'islam en Afrique noire, au Maghreb, en Asie, aux États-Unis, partout. C'est une religion mondiale. Ce n'est pas une religion qui a été révélée pour les Arabes seulement. C'est les premiers qui ont reçu ce message et qui l'ont propagé. Et ils ont un mérite par rapport à ça. Lakin, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les hommes et tous les djinns. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته